RCF.
Depuis les confessions de Jean-Jacques Rousseau, l'autobiographie s'est imposée en littérature. Certains s'en irritent, d'autres sont séduits par ce genre. Avec Les Armoires vides, publié en 1974, Annie Ernaux est devenue l'un des écrivains majeurs de la littérature autobiographique. Pourquoi ? Peut-être parce que lire l'œuvre d'Annie Ernaux, c'est entreprendre un voyage en soi-même. Peut-être aussi parce que, comme le dit le sociologue Christian Baudelot, nous aimons ces livres parce qu'ils parlent de nous. À l'occasion de la publication du dernier ouvrage d'Annie Ernaux, Le vrai lieu, des entretiens avec Michel Porte, j'ai invité Sylvie Toucheboeuf et c'est une lectrice attentive de l'œuvre d'Annie Ernaux. Elle va nous aider à répondre à cette question, comment comprendre, comment définir l'originalité de ce projet d'écriture. Bonjour Sylvie Toucheboeuf.
Bonjour Montserrat Avidal.
Alors, Annie Ernaux, une autobiographie impersonnelle. C'est assez singulier que de parler d'autobiographie impersonnelle.
Oui, effectivement, c'est une formule paradoxale et c'est d'autant plus intéressant de le considérer que c'est elle-même qui qualifie ainsi ses œuvres. Les critiques ont pu parler également d'autobiographie collective, voire objective. Et dans le vrai lieu, elle confie d'ailleurs à Michel Porte à propos de son roman La Place, qui a eu le prix Renaudot en 1983. J'ai commencé à la première personne en disant « je ». Au bout d'une vingtaine de pages, j'ai senti qu'il fallait éliminer le « je » et m'engager résolument dans une autobiographie impersonnelle. Et en 2008, c'est-à-dire lors de la parution des années, l'un de ses derniers ouvrages, eh bien, elle emploie exactement la même formule. Elle évoque, je la cite, « le récit glissant dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière image d'une vie ». Et elle voit ce récit comme une sorte d'autobiographie impersonnelle. Non pas un « je », mais un « on », un « nous ».
Quels sont les enjeux pour Annie Ernaux dans cette entreprise ?
Alors, les enjeux sont multiples, dirons-nous. C'est vrai que ce n'est pas une autobiographie stricto sensu, au sens où Philippe Lejeune parlait de l'autobiographie, au sens où Rousseau également faisait son autobiographie, en étant à la recherche notamment de ses souvenirs, mais aussi en voulant rendre compte de la formation de sa personnalité.
Ce n'est pas non plus une autofiction.
Ce n'est pas une autofiction. Elle récuse le terme, elle le trouve beaucoup trop étroit et elle commence sur la voie de l'autobiographie par un genre que l'on connaît et que l'on pourrait appeler le roman autobiographique, notamment avec Les Armoires vides que vous avez cité. La jeune femme qui est à la fois narratrice et personnage s'appelle Denise Le Sur, mais bien sûr c'est l'histoire d'Annie Duchesne, alias Annie Ernaux, qu'elle parle, et c'est bien en tous les cas de ses perceptions, de sa conscience, qu'une expérience du monde se lit dans cet ouvrage.
Alors, Annie Ernaux, son nom nous est familier, mais peut-être pourrait-on rappeler quelques éléments biographiques la concernant ?
Voilà, elle naît en 1940 à Lillebonne en Normandie. Elle va passer son enfance et son adolescence dans le café-épicerie que tiennent ses parents dans un quartier d'Yvetot, un quartier très populaire. Elle a souvent décrit ces lieux qui sont devenus un peu des lieux mythiques de la littérature, comme la pension Vauquer l'est devenue dans le Père Goriot.
C'est une grande pauvreté qui caractérise ce milieu.
Une très grande pauvreté. Bien sûr, il s'agit d'un café, d'une épicerie, mais enfin, c'est un café où tout le monde se connaît. C'est une épicerie où les familles d'ouvriers viennent payer à la fin du mois. Il n'y a pas d'eau courante. Les WC sont dans la cour. Je dirais qu'il y a une promiscuité de tous les instants et que la famille vit littéralement au milieu des clients. La seule pièce où l'on peut se retirer, c'est une chambre glaciale qui est située à l'étage et dans laquelle dorment et les parents de cette petite fille et cette petite fille elle-même. On pense à ce que dit Balzac, justement, de la pension Vauquer quand il évoque une misère sans poésie. Cela dit, son enfance est plutôt heureuse, malgré, comme elle le dit avec un certain humour, hein, les vieux sous l'eau hein, qui vomissent dans le café, malgré les hurlements de sa mère, les gifles qu'elle reçoit parfois. Cette enfance est assez heureuse parce qu'elle est libre. Et on ne peut pas dire qu'Annie Ernaux en est un mauvais souvenir. La rupture va venir lorsqu'elle intègre
les études.
Bien sûr. Et puis, l'école privée, parce que l'école communale, l'école publique, ce n'est pas assez bien pour la mère. Donc, elle découvre à l'école privée des modèles, on dirait, socio-culturels radicalement différents par l'intermédiaire de ses camarades, de ses institutrices également. Elle découvre l'émergence d'un nouveau langage et d'une culture qui va la conduire peu à peu à rejeter l'univers de ses parents.
Elle devient enseignante également.
Elle va devenir enseignante.
Brillante.
C'est une excellente élève. Elle va faire des études de lettres à l'université de Rouen, puis à Bordeaux. Elle va passer le CAPES, l'agrégation. Elle enseignera tout d'abord à Annecy, puis à Pontoise, dans la banlieue parisienne, et enfin au CNED. Mais je crois que dès l'âge de 20 ans, elle le formule très clairement dans son journal intime. Ce qu'elle veut, son projet essentiel, c'est écrire.
Je n'aime réellement qu'écrire, parce que c'est retenir la vie, dit-elle.
Voilà, c'est retenir la vie. Et on ne peut que signaler l'excellent ouvrage qui est publié, c'est un recueil de ses œuvres, hein, en quarto Gallimard, ouvrage qu'elle intitule « Écrire la vie ». Je crois que ça, c'est son projet général.
Sylvie Toucheboeuf, il y a la passion, la fascination de la littérature pour Annie Ernaux. Elle dit même, pendant 2 ans, j'ai été folle de littérature.
Exactement, elle le dit. Elle dit la littérature plus réelle que la vie. Personne ne pouvait être à ce moment-là à Rouen plus folle que moi de littérature. Je crois que cette fascination a eu pour origine la découverte d'un langage nouveau, ce langage qu'elle découvre à l'école, qu'elle découvre également dans les livres et qu'elle évoque assez longuement d'ailleurs dans ce premier roman.
Mais vous évoquez même la schizophrénie langagière d'Annie Ernaux.
Mais c'est elle qui emploie ce mot d'ailleurs. Hein. Elle dit elle a été conduite d'une certaine façon à voir sa vie coupée en deux par l'intermédiaire ou à cause du langage, comme elle le formule.
Pouvez-vous nous lire un petit extrait ?
Ma mère m'offre le Larousse aux pages roses dans le milieu. Elle confie fièrement à la maîtresse que je passe des heures le nez dedans. La grâce, toujours. Langage bizarre, délicat, sans épaisseur, bien rangé, et qui, prononcé, sonne faux chez moi. Expression orale maladroite en dépit de bons résultats, elles écrivaient les maîtresses sur le carnet de notes. Je porte en moi 2 langages. Les petits points noirs des livres, les sauterelles folles et gracieuses, à côté des paroles grasses, grosses, bien appuyées, qui s'enfoncent dans le ventre, dans la tête, font pleurer dans le haut de l'escalier, sur les cartons de biscuits, rigoler sous le comptoir. Le père excédé m'origina son fils, dit la grammaire. c'est sans importance, mais la sale carne a encore épignolé le fromage des clients. Et la boutique s'assombrit. La mère hurle. Les seules choses vraies sont celles qu'on sent partout, même entre les jambes. Les gâteaux roses qui m'ont fait dégobiller toute la nuit. La mère me souffle dans le noir. Envale la menthe, ça t'enlèvera le barbouillage.
Et puis, cette fascination se fracasse sur le quotidien. C'est la fin de la fascination pour la littérature. Qu'est-ce qui la provoque ?
Alors, ce qui va mettre fin à la fascination et même presque à la confiance qu'elle avait finalement dans la littérature et dans les mots, c'est une grossesse non désirée. Une décision d'avortement qui va être douloureuse, d'autant plus douloureuse que le jeune homme concerné par cette grossesse, justement, ne se sent pas concerné et en profite pour partir en vacances. Donc elle décide d'avorter et c'est un avortement clandestin qui bien sûr s'effectue par l'intermédiaire d'une faiseuse d'anges, de bien jolis mots pour décrire une réalité atroce. Et effectivement, elle le dit, elle ne trouve rien dans la littérature qui puisse l'aider à assumer cet acte difficile. Elle dit, toujours dans les armoires vides, quel écœurement. Il n'y a rien pour moi là-dedans sur ma situation. Pas un passage pour décrire ce que je sens maintenant, m'aider à passer mes sales moments. On voit bien l'impuissance de la littérature, l'impuissance de la culture au sens le plus scolaire du terme, et c'est là véritablement qu'elle va comprendre le décalage entre le réel et les mots.
Et le décalage entre ces jolis mots, ces fleurs de rhétorique, et la réalité de l'expérience vécue, qu'elle relate avec une forme de brutalité, presque.
Voilà, Les armoires vides, c'est véritablement un roman initiatique, je dirais. Ces armoires sont vides, un peu comme si elles voulaient faire le vide pour dégager une nouvelle voie, VOIE et VOIX, une nouvelle voie d'écriture. Et dans ce roman, où le style est très brutal, la brutalité, on la ressent dans le lexique, on la ressent dans la syntaxe.
Vous la comparez même, cette forme, cette expression, à Céline, parfois.
Il y a effectivement quelque chose de célinien dans cette colère, dans cette violence. Un peu comme si elle avait des comptes à régler. Des comptes à régler, d'ailleurs, moins avec les gens qu'avec la littérature. Ce qu'elle veut, elle, c'est un autre genre de littérature, une littérature qui n'aurait plus peur d'être mauvais genre. Justement.
Et alors, il se passe après, dans les deux livres suivants, un abandon de la fiction, puisque là nous sommes encore dans la fiction, puis peu à peu, cette fiction, ce roman autobiographique, va changer de forme. Qu'est-ce qui se passe alors sur le plan littéraire pour l'œuvre d'Annie Ernaux ?
Voilà, sur le plan littéraire, on pourrait dire qu'elle va abandonner la fiction un peu pour laisser parler la force du réel, comme elle dit. L'autobiographie a beau être impersonnelle, les récits qu'elle va entreprendre désormais, vont faire revivre une expérience quotidienne du monde. Elle va dire l'expérience de la honte, l'expérience de l'humiliation, comme elle a dit l'expérience de l'avortement. Il y aura aussi l'expérience du mariage, de la passion, de la maternité et jusqu'à la maladie et la mort des parents. Bref, une nouvelle fois, écrire la vie, mais écrire la vie en dessous de la littérature, comme elle le dit également.
Et là, on ne peut pas ne pas citer le récit qui a rendu Annie Ernaux célèbre, la publication en 1983 de La Place. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette lecture, Sylvie Touchebœuf ?
Alors, de cette lecture, on retiendra l'hommage au père. Cet hommage, elle le rend parce que l'accession à la culture, l'accession à un niveau socioculturel supérieur par rapport à celui des parents, a produit une véritable séparation avec les parents. On pourrait même parler de trahison. Et cette séparation, elle a été encore bien plus forte, semble-t-il, avec le père. Voilà pourquoi elle veut retrouver une certaine façon des liens d'amour, des liens d'affection avec ce père qu'elle a aimé. Et elle le dit d'ailleurs, elle a voulu commencer cet ouvrage comme un roman et elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce que, dit-elle, elle n'a pas voulu faire de la vie de son père quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Elle a simplement voulu lui rendre hommage en montrant ses gestes, en montrant la façon dont il se comportait, la façon dont il parlait, à hauteur d'homme, si je puis dire.
Oui, mais il y a un sentiment qui semble marquer notamment La Place et puis ses œuvres ultérieures. Ce sentiment, je vais l'évoquer en passant par une citation de Jean Genet. « Écrire, dit-il, c'est le dernier recours quand on a trahi. » Peut-on parler de trahison pour Annie Ernaux ?
En tous les cas, d'un point de vue purement, je dirais, à la fois psychologique et sociologique, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Elle a vécu cette séparation d'avec ses parents sur le mode de la trahison. Et je crois que les parents, ses propres parents, l'ont vécu de la même façon. Et c'est pour cela, justement, qu'elle met cet exergue dans son ouvrage La Place.
Dialogue, Montserrata Vidal.
Sylvie Toucheboeuf, l'intérêt de l'œuvre d'Annie Ernaux n'est-elle pas aussi dans l'exploration de la mémoire individuelle, immergée dans la mémoire collective ? C'est peut-être pour cela que ses lecteurs aiment son œuvre.
Oui, c'est pour cela aussi qu'on peut parler d'autobiographie impersonnelle. C'est vrai qu'elle va explorer sa mémoire individuelle, mais l'intérêt, le très grand intérêt, je crois, de ses écrits, c'est qu'elle va explorer le champ littéraire avec les outils des sciences humaines. Et elle le fait de façon tout à fait consciente et
volontaire. Donc vous voulez parler de sociologie, là ?
Exactement. Elle dit qu'il faudrait qu'elle écrive quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Ce souhait d'il y a 15 ans, dit-elle, reste toujours l'essentiel de ma visée. On pourrait y ajouter d'ailleurs la visée politique. Elle l'a dit quand elle écrit La Place. C'est un ouvrage qui peut être politique au sens le plus large du terme. De même, Les Armoires vides, c'est sa condition de femme qu'elle explore. Et dans La Place, eh bien, on peut entendre d'ailleurs ce titre de façon polysémique. C'est la place du village, mais c'est aussi la place que le père occupe dans la société. C'est vrai que c'est un genre d'autobiographie qui convient bien, me semble-t-il, à notre époque.
Alors, nous parlions en commençant cette émission de Rousseau. Si on veut établir une filiation pour l'œuvre d'Annie Ernaux, ce n'est peut-être pas à Rousseau qu'il faut se référer, mais à l'une des premières femmes académiciennes qui a marqué la littérature aussi du XXe siècle.
Voilà, c'est vrai qu'elle ne recherche pas Annie Ernaux, comme l'a fait Rousseau dans ses Confessions, à explorer son intériorité autorité, à rechercher les fondements de sa personnalité, même si, bien évidemment, cela transparaît. Je crois qu'elle s'efforce de tenir à distance, et l'expression vient cette fois de Marguerite Yourcenar, « l'être que j'appelle moi ». On se rappelle la trilogie de Marguerite Yourcenar, « Le labyrinthe du monde », et le premier volet de cette trilogie, « Souvenirs pieux », où Marguerite Yourcenar, au lieu de parler d'elle-même et de sa vie, projette sur le devant de la scène ses ancêtres. On peut penser à une autre approche autobiographique, qui est celle de Pierre Michon dans « Vie minuscule », qui s'invente une parentèle avec des marginaux que l'histoire n'a pas retenus, pour mieux parler de lui. Eh bien, je crois que Annie Ernaux a la même volonté, d'une certaine façon, de dissoudre le sujet dans des identités collectives. Et c'est ce qui est intéressant, parce que du coup, comme elle le dira dans les années, elle va vouloir englober la mémoire de la mémoire collective, ce qu'elle va faire très bien dans ses dernières œuvres. Elle dit à Michèle Porte, avec laquelle donc elle a cet entretien, « Écrire, c'est descendre dans la réalité sociale, la réalité des femmes, la réalité de l'histoire de ce que nous avons vécu de façon collective, mais au travers de ce que j'ai vécu personnellement. » Je crois qu'on ne pourrait mieux dire.
Alors, descendre dans la vie sociale, cette vie sociale, comment est-elle évoquée dans La Place, par exemple, notamment, pourriez-vous faire entendre à nos auditeurs la musique, si je puis utiliser ce terme, la musique d'Annie Ernaux?
Oui, alors c'est un passage où le père d'Annie Ernaux est montré en train de recevoir les clients dans son café, mais en particulier le dimanche après-midi, ce sont les vieux messieurs de l'hospice avoisinant qui viennent au café. Le café du dimanche leur servait de famille. Conscience de mon père d'avoir une fonction sociale nécessaire, d'offrir un lieu de fête et de liberté à tous ceux dont il disait « ils n'ont pas toujours été comme ça », sans pouvoir expliquer clairement pourquoi ils étaient devenus comme ça. Mais évidemment, un assommoir pour ceux qui n'y auraient jamais mis les pieds. Voix étroite en écrivant, entre la réhabilitation d'un mode de vie considéré comme inférieur, et la dénonciation de l'aliénation qui l'accompagne. Parce que ces façons de vivre étaient à nous, un bonheur même, mais aussi les barrières humiliantes de notre condition, conscience que ce n'est pas assez bien chez nous, je voudrais dire à la fois le bonheur et l'aliénation. Impression bien plutôt de tanguer d'un bord à l'autre de cette contradiction.
L'œuvre d'Annie Ernaux, et notamment donc La Place, bascule tantôt vers le sentiment d'aliénation, aliénation en tant que femme, aliénation sociale, mais aussi, pour ne pas rendre plus sombre qu'elle n'est cette œuvre, il y a du bonheur.
Alors effectivement, il y a du bonheur lorsqu'elle évoque notamment ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs familiaux, et elle dit d'ailleurs, et c'est l'objet, c'est en partie l'objet de son dernier ouvrage, elle dit que dans ce monde ineffable de l'enfance, eh bien, ce qu'elle voudrait retenir, ce sont bien sûr les visages, ce sont ses parents, sa famille, ses amis, mais surtout, elle parle d'une lumière. La lumière, je la cite, qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies, cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d'enfance et n'a cessé de se déposer sur les choses aussitôt vécues. Une lumière antérieure.
Et puis, ce bonheur, Sylvie Touchebœuf, n'est-ce pas aussi celui que donne la littérature, qui est le vrai lieu, n'est-ce pas, comme nous l'évoquions tout à l'heure?
Absolument. Elle le dit d'ailleurs à Michel Porte. Elle dit que l'écriture, en tous les cas, c'est ce qu'elle a voulu faire toute sa vie. Elle avoue qu'elle a aimé enseigner, elle a aimé son métier, elle a aimé vivre avec ses enfants. Mais ce qui lui plaisait, je crois, ce qui lui tenait à cœur, sa véritable passion, je crois que c'est l'écriture. Et c'est d'ailleurs de là que vient le titre de ce recueil d'entretien, puisque elle le dit dans la dernière page, l'écriture, c'est tout de même là où j'ai l'impression d'être le plus mon vrai lieu.
Mon vrai lieu. Alors nous explorerons dans une seconde émission d'autres lieux de cette littérature d'Annie Ernaux. Nous réfléchirons également à ce décentrement du modèle autobiographique traditionnel. Et merci à vous Sylvie Touchebœuf de nous avoir fait entendre cette musique singulière, parfois âpre, parfois crue, de la prose d'Annie Ernaux.
Merci Monsieur Attavidal.